ils se tournent vers Dieu. Certains chrétiens même voient leur vie en danger. Et notre vie peut être en danger par une foule de situations différentes, et c'est là que l'angoisse peut nous saisir. C'est là que tout à coup les jambes peuvent nous couper, puis on tombe à genoux, là, puis on crie à Dieu, même si ce n'est pas dans notre habitude, puis là on se tourne vers Dieu. Certains même n'ont pas une grande foi, et pourtant lorsqu'ils sont frappés par une dure épreuve ou qu'ils se sentent vraiment dépourvus de solution, ils se tournent vers Dieu. C'est une réaction normale, mais c'est à ce moment-là où le danger est de sombrer dans le désespoir, dans l'angoisse, où on perd le contrôle et on est assailli par la crainte, la peur. Et c'est notre foi en Dieu, en réalité, qui est mise à l'épreuve dans cette situation-là. Notre confiance en Dieu. C'est plus que de savoir que Dieu existe et qu'il peut même entendre lorsqu'on crie à lui. C'est notre conception de qui est Dieu, le fait qu'il nous aime, qu'il est un Dieu qui est en contrôle, qui est tout-puissant. Tout cela est mis à l'épreuve. Notre foi dans le Dieu qui est bon, le Dieu dont la Bible parle. Notre foi est mise à l'épreuve. Ça peut être une maladie grave qui nous atteint. Quand on apprend qu'on a le cancer, on peut se tourner vers Dieu, puis on est dépourvu de solutions. Une maladie grave, un accident aussi qui est subi. Ça peut être dans le domaine financier, et c'est pas à prendre à la légère. On peut perdre notre emploi. Parfois, ça amène à ce que même nos biens, on voit qu'on va tout perdre. Certains même voient qu'ils vont perdre leur maison. Ils vont tout perdre. Et là, la peur peut nous assaillir. Est-ce que je vais même avoir suffisamment de moyens financiers même pour vivre, pour me nourrir, pour avoir un toit, des vêtements? Parfois, c'est la sécurité qu'on a d'être entouré d'amis, d'être cher, de la famille. Et lorsque tout à coup, il arrive une situation où on nous abandonne, où on est rejeté, là, on se trouve, on dirait, face à un mur, à une impasse, on ne sait pas comment faire pour continuer à avancer. La trahison est très dure à admettre aussi. Là. Elle est traitée de manière injuste, qu'on colporte des mensonges à notre égard, et quand même, ça a des conséquences où on est injustement traité, notre réputation est entachée. Et ça peut aller jusqu'à des gens qui sont méchants envers nous, et des attaques verbales, des attaques en justice, parfois même des attaques physiques. Ça peut même être la violence là, contre nous. Toute forme d'attaque. Et où est-ce que tout à coup, on se rend compte qu'on est bien peu de choses et on est fragile. Et c'est là que notre foi, comme je le disais, est mise à l'épreuve. Et Dieu a placé les Israélites, comme on l'a vu la semaine passée, il leur a fait faire un détour. C'était déjà une épreuve pour eux, de savoir, « Oh, Dieu ne nous envoie pas en ligne droite vers Canaan. » C'était une épreuve que de suivre ce détour-là par le désert, être à la merci d'un désert où il n'y a rien qui pousse. Là. Mais là, Dieu va les placer maintenant dans une situation où ils vont être vraiment vulnérables et sans issue. Ça faisait 400 ans qu'ils étaient en esclavage en Égypte. Et comme notre frère Isaac nous l'a souligné, Dieu a opéré la première Pâque et il a pu libérer son peuple de l'esclavage. Maintenant, il les conduit comme dans une nouvelle vie, un genre de baptême, de cette nouvelle vie qui les attend. Mais il prolonge ce long détour-là. Et on va voir aujourd'hui que ça les mène face à la mer, une grande mer qu'il est impossible de traverser. Et ce n'est pas seulement les soldats qui sont envoyés, c'est tout le peuple avec les épouses, les serviteurs, les enfants, tous leurs biens. C'est impossible de traverser une mer comme cela. Ils se trouvent face à la mer. Et la seule issue, c'est de faire marche arrière. Et ce qui va ajouter à leur détresse, c'est que les Égyptiens vont savoir qu'ils se sont mis dans un piège, comme on pourrait dire, et ils vont partir à leur trousse. Donc même la seule issue possible de faire marche arrière, elle est bloquée parce que l'ennemi arrive en trombe. Vous imaginez la scène, la grande peur qui a dû les assaillir. Mais Dieu voulait leur apprendre quelque chose ce jour-là, et il veut nous l'apprendre à nous aussi. La première chose qu'il veut nous apprendre, c'est de ne pas craindre les hommes, ne pas craindre l'ennemi. Humainement, c'est normal d'avoir peur. C'est même une réaction de survie. Ça va dans notre instinct. Mais eux disent non, ne craignez pas toutes les menaces qui peuvent survenir, les menaces humaines ou autres. Ne les craignez pas. Parce qu'il y a une deuxième chose qu'il veut nous apprendre aussi, c'est à craindre Dieu. C'est lui que nous devons craindre. Et on va le voir ce matin dans le chapitre 14 d'Exode. Je vous invite à tourner avec moi, si vous n'y êtes pas déjà. Le livre d'Exode, chapitre 14. C'est le deuxième livre dans l'Ancien Testament. chapitre 14, on va lire les 18 premiers versets. Donc, Exode 14, verset 1. Exode, chapitre 14, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et il dit, « Parle aux Israélites qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Et c'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Le Pharaon dira aux des Israélites, « Ils sont égarés dans le pays. Le désert s'est refermé sur eux. » J'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra. Mais je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel. Et c'est ce qu'ils firent, les Israélites. Et on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les sentiments du Pharaon et celui de ses serviteurs à l'égard du peuple furent changés. Et ils dirent, « Qu'avons-nous fait ?» en laissant partir Israël, dont nous n'aurons plus les services. Le Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Sur tous, il y avait des équipages de 3 hommes. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Les Israélites étaient sortis librement, ou le poing levé, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée. Et ils les atteignirent alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Le Pharaon approchait. Et les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte. Et ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte pour que tu nous aies amenés mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car vaut mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Et Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en place, et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Et l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites, et qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer, et fends-la. » Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Et quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent derrière eux, et je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, de ses chars, de ses cavaliers. Et les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. Quand j'aurai été glorifié par le moyen du Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. » On va lire la suite un peu plus tard. Donc Dieu, on voit qu'il les place dans une situation sans issue. Ils campent au bord de la mer. Et il veut leur apprendre à ne pas craindre les ennemis qui vont approcher justement. Et il va leur montrer de 3 manières, comme on vient de le lire. 3 manières où Dieu s'y prend pour leur montrer qu'ils ne doivent pas craindre. Et c'est une bonne leçon pour eux, ne pas craindre l'ennemi. Premièrement, il montre, bien, il révèle à Moïse, peut-être que ce n'est pas tout le peuple qui l'a su à ce moment-là, mais par la suite, ils l'ont su. Et ça demeurait une bonne leçon pour eux. Que cette grande menace à laquelle ils étaient confrontés, c'est Dieu qui l'avait organisée. C'était son plan qui s'exécutait. Et ça, il le révèle à Moïse. Et Dieu, dans le fond, s'il les a fait passer par un long détour pour aller jusqu'à la mer, c'était seulement le prolongement du chemin qu'il avait déjà entrepris, comme on l'a vu au chapitre 13 la semaine passée. Et il leur montre qu'il les conduit toujours. C'est son plan précis qui s'exécute, même en nommant des villes, l'endroit exact où il veut qu'ils campent. Ils se retrouvent sur le bord de la mer. Et ils campent sur le bord de la mer. C'est là que Dieu ordonne de camper. Et on peut s'imaginer, la scène, il y avait entre 2 et 3 millions de personnes. Donc, le campement sur le bord de la mer, il devait se prolonger très loin sur la rive, très haut dans le nord et dans le sud. C'était un long campement. Ça devait être imposant à voir. Mais ils étaient quand même dans l'impasse, là. Il n'y avait pas d'autre chemin. où s'en aller. La mère des gens était devant eux. C'était déjà une situation préoccupante pour eux. Moi, il me semble, Dieu me dit de camper sur le bord de l'eau. Il va me dire quoi après? À leur place, j'aurais été préoccupé. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il veut qu'on passe notre vie ici? Mais ils ne savaient pas encore la plus grande menace qui s'en venait, c'est que les Égyptiens arrivaient par derrière. Mais Dieu, cela aussi, il l'a annoncé d'avance à Moïse. Non seulement il lui prédit que les Égyptiens vont venir les attaquer, mais il l'informe que c'est lui qui a tout planifié là, qu'il a tout planifié, qu'il a endurci le cœur du Pharaon et de ses serviteurs, et que s'il déploie toute sa puissance, c'est parce que Dieu veut justement qu'il monte. D'accord, sortez avec toute votre puissance, toute votre armée, montrez qu'est-ce que les Égyptiens sont capables, dans toute votre rage. Mais c'est Dieu qui l'a voulu. Il endurcit le cœur du Pharaon pour qu'il regrette d'avoir laissé partir le peuple. Pourtant, peu de temps avant, là, c'est lui qui les a chassés. Il dit « Allez-vous-en, on ne veut plus jamais vous voir. » C'est étonnant de voir comment il change rapidement. Mais c'est l'action de Dieu dans son cœur. Mais le dénouement va être pour la gloire de Dieu. Même le peuple d'Égypte va être forcé de reconnaître que c'est vraiment... Dieu est vraiment l'Éternel. Il n'est pas seulement un Dieu local qui était dans le pays de Goshen. Il est le Dieu créateur. Et même si le peuple d'Israël n'est plus en Goshen, n'est plus en Égypte, qu'il est parti au loin, même s'il est pris dans le désert sur le bord de la mer, Dieu est encore là. C'est toute une leçon que Dieu voulait donner, non seulement à son peuple, mais à tous les peuples qui allaient entendre cette histoire-là. Et tout se passe comme Dieu l'a annoncé. Les Israélites campent au bord de la mer, et lorsqu'on informe le Pharaon que les Israélites sont pris là, il saisit l'occasion et il part. Et tous ses chars sont avec lui, toute son armée. 600 chars d'élite plus les autres chars, on apprend qu'il y a de nombreux chevaux, son armée entraînée, là, et lui-même est là. C'est vraiment lui et toute sa troupe, là. Toute sa puissance, dans le fond, est déployée. Puis aux yeux des Égyptiens, l'armée égyptienne, lorsqu'elle avance, elle détient aussi la puissance de leur Dieu. Donc c'est toute la puissance d'Égypte et de leur divinité qui est là pour aller écraser ce peuple rebelle qui a osé s'opposer au Pharaon. Puis ils rejoignent les Israélites, puis ils sont vraiment supérieurs. À des yeux humains, normalement, ils auraient écrasé les Israélites comme rien. Ils étaient vraiment supérieurs. Leur force militaire était évidemment plus grande. Et Dieu nous a révélé dans la Bible qu'on va être confronté parfois à des forces qui sont plus grandes que nous, des menaces où on est dépourvu de moyens de s'en sortir. Il ne dit pas, vous serez plus grand que tout ce qui va vous arriver. Toutes les souffrances qui peuvent vous atteindre, c'est pas grand-chose. Non, la Bible nous avertit qu'il y a des souffrances réelles et qu'on va être justement dépourvu. Mais Dieu nous dit dans sa parole que c'est sa volonté qui s'accomplit. Même lorsqu'on se trouve dans un impasse et qu'on se demande pourquoi je retrouve là, puis qu'on est même tenté de crier à l'injustice, Dieu nous dit que c'est lui-même qui a voulu cela, c'est lui qui a organisé tout cela, c'est lui-même qui organise les menaces qui nous frappent. Mais heureusement, il n'y a pas seulement cela qu'il organise. Et cela, il le révèle pour qu'on réalise, pour qu'on prenne conscience que c'est Dieu qui organise tout cela, mais aussi qu'on prenne conscience à quel point on a une tendance rapide à craindre ce qui se passe autour de nous, à craindre les hommes, à craindre les ennemis. Et c'est ce qu'il voulait faire comprendre au peuple d'Israël aussi. On voit au verset 10, « Le Pharaon approchait. » Et ça a pris un certain temps quand même avant qu'il arrive. Ici, les versets se suivent, mais lorsqu'on lit dans le texte original en hébreu, il y a comme la manière dont c'est écrit, il y a une pause ici. C'est comme un changement de scène. Là, le peuple d'Israël est installé, ils ont fait leur campement. Là, tout à coup, quelqu'un lève les yeux, puis « Hey, c'est quoi là-bas? » Et le peuple lève les yeux et il voit l'armée arriver. C'est sûr que là, ils sont dans une grande détresse. On lit au verset 10, « Ils furent remplis de crainte. » En québécois, on pourrait dire « ils capotent. » Puis, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur désespoir, ils crient « On va tous mourir. On est fait. » Puis, c'est pas lorsqu'on dit que leur foi est mise en doute, c'est pas leur conception de « Est-ce qu'il y a un Dieu qui existe? » Parce que leur premier réflexe, c'est justement de se tourner vers Dieu. Ils crièrent à l'Éternel. Mais on voit, de la manière dont c'est décrit dans le texte, que leur attitude face à Dieu, elle est mauvaise. Ils crient leur désespoir, mais ils font plus que crier leur désespoir. Ils tombent dans leur murmure, dans le chialage, qu'on pourrait dire en québécois. Ils font même... Leur premier réflexe, c'est de faire des reproches à Moïse, le serviteur de Dieu. « Pourquoi tu nous as emmenés ici? » Il leur dit... Ils lui disent, dans le fond, c'est ta faute. Tu nous as conduit ici, on est face à une impasse, on t'a écouté, pourtant on t'avait averti que c'était pas une bonne idée, mais c'est ta faute. Là. Pourtant, Moïse ne les a pas tirés par le bras, là, mais quand même, il se tourne vers lui pour lui dire, c'est ta faute. Mais en faisant cela, on se rend compte que c'est à Dieu qu'ils font des reproches. Ils font des reproches à Moïse, qui est serviteur de Dieu. Ils sont en train de dire à Dieu, dans le fond, pourquoi tu nous as conduit ici? On va tous mourir. Tu nous as envoyé un libérateur pour finalement nous emmener dans une situation qui est pire que celle qu'on vivait. On aimerait mieux retourner sous l'esclavage. Donc, on voit que leur peur, leur crainte a été très négative dans leur réaction. Ça les a conduits à se rebeller contre Dieu, à pécher contre Dieu. Ça les a empêchés de rester fidèles à Dieu. Ça les a même fait oublier que Dieu était au contrôle. Pourtant, Dieu venait de montrer par 10 plaies extraordinaires qu'il est parfaitement en contrôle. Il venait de mettre à mort les premiers-nés dans toutes les familles de l'Égypte, et eux, ils avaient été épargnés. Ils avaient sorti de là dans une grande gloire, dans un sens. Ils avaient même reçu les louanges du peuple, et le peuple égyptien leur avait donné leur objet précieux. Et là, ils oubliaient tout ça, comme si Dieu l'était pas capable de garder le contrôle sur les événements. Mais tout ça, c'est la peur qui les a poussés à faire cela. Une peur qui les pousse à pécher. Et dans les épreuves, dans nos vies, bon, le sentiment de la peur peut venir, c'est normal. Mais que l'on tombe dans la crainte, une peur, une terreur, un désespoir, ça nous pousse inévitablement à pécher contre notre Dieu. Ce n'est pas une excuse. On ne peut pas plaider, « Ce n'est pas de ma faute, j'ai eu peur. » Même le fait de tomber dans une profonde crainte, c'est en soi un péché. Ça veut dire que ça dévoile notre cœur. On est en train de témoigner qu'on ne croit pas, on ne croit pas en la puissance de Dieu. On n'a pas confiance en Dieu. On n'a pas confiance en ses promesses. Et on dévoile, dans le fond, que notre assurance est basée vraiment sur ce que l'on voit, sur nous-mêmes, sur ceux qui nous entourent, sur les moyens dont on dispose. Et lorsqu'on perd les moyens, tout tombe. Ça révèle vraiment notre cœur et notre conception réelle de qui est Dieu pour nous. Par les épreuves, on voit si on craint les hommes, si on craint les événements, même les malheurs, la Bible les présente comme étant comme des ennemis pour nous. Même, on a même une expression qui dit qu'on va combattre une maladie ou combattre un cancer. Même les événements mauvais que l'on vit, on les voit comme des ennemis. Mais si on les craint, on n'est pas en train de craindre Dieu. On doit comprendre que lorsqu'on craint les ennemis, on pèche contre Dieu, on doute de sa parole. Et dans un sens, lorsqu'on crie à Dieu et qu'on dit que c'est injuste, on est en train de murmurer contre lui. Et on refuse, dans un sens, de se soumettre à la volonté de Dieu. Mais heureusement, Dieu nous fait grâce. Heureusement, Dieu n'est pas rapide à la colère et prompt à la punition, au châtiment comme nous. Il est lent à la colère, il nous fait grâce. Et il a fait grâce ici au peuple d'Israël. Il aurait pu les détruire d'être là. Vous osez murmurer contre moi, contre mon serviteur Moïse, mais il leur fait grâce. On entendrait les paroles de Jésus qui dit « Pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et Dieu veut les former. Il veut qu'ils comprennent. Et ça montre une troisième manière que Dieu voulait leur montrer qu'ils n'ont pas à craindre les hommes. C'est qu'il veut leur montrer « C'est moi qui vais combattre à votre place. Je ne vous demande même pas de combattre l'armée qui s'en vient. Je vais combattre pour vous. Je vous demande juste de me faire confiance, de faire ce que je vais vous demander de faire par la foi, mais c'est moi qui vais combattre. » Verset 13 et 14. « Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte. » C'est même écrit dans une forme de commandement. C'est un impératif. Ne craignez pas, soyez sans crainte. Vous verrez, voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel, combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Dans un sens, Moïse leur dit, « Arrêtez d'avoir peur des Égyptiens. Dieu va combattre à votre place. Même vous verrez qu'il va vous faire justice, il va les détruire. Vous ne les verrez plus, tous ceux qui osent s'opposer à vous et à votre Dieu. Dieu va vous faire justice, il va les juger. Arrêtez d'avoir peur de mourir. Dieu va vous sauver aujourd'hui. L'Éternel va vous sauver. Arrêtez de réagir sous la peur et de pécher par vos murmures. » Même, il leur dit, « Gardez le silence devant Dieu. » Garder le silence, ça veut dire « Soumettez-vous à Dieu. » Comme des fois, j'ai dit à mes enfants, « Arrêtez de capoter, taisez-vous. Vous allez voir qu'est-ce qui va arriver. » Ou même plus cru que ça, parfois, mais... Et Dieu voulait par ça qu'ils réalisent, dans le fond, il les met face à leur cœur. « Oh, c'est vrai, je suis en train de m'opposer à Dieu dans mes paroles. » Dieu ne fait pas seulement démontrer sa puissance. Il s'adresse à eux. « Taisez-vous, ne craignez pas. Regardez, observez. » Il leur fait prendre conscience, dans le fond, de leur crainte des hommes qui est mauvaise. Il veut qu'ils réalisent que leur attitude est mauvaise. Et au verset 15, l'Éternel continue à leur parler, mais il s'adresse à Moïse. Il dit, « Pourquoi cries-tu vers moi? » Là, il y a deux explications. Soit que Moïse, lui aussi, murmurait comme le peuple, mais je ne pense pas. Il n'y a pas d'indication qu'il dise cela. Je pense que Dieu s'adresse à Moïse comme Moïse étant le représentant du peuple. Il s'adresse au peuple, en fait. Pourquoi cries-tu? C'est les paroles qu'il transmet à Moïse pour que Moïse les transmette au peuple. Au lieu d'être figé par la crainte, Dieu leur dit, « Préparez-vous. Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. » Wow! Il leur demande de faire tout un pas de foi. Il leur dit, sortez pas vos épées, vos bâtons, essayez de fabriquer des boucliers ou des baraquements pour empêcher l'armée d'arriver. Il leur dit, mettez-vous en marche. C'est vraiment de lever votre campement, ramasser vos choses, continuer votre route. Mais il n'y en a pas de route. Il y a une armée qui arrive, là. Donc Dieu leur demande vraiment de faire un pas de foi. Ayez confiance en moi, je vais vous sauver aujourd'hui, mais faites ce que je vous dis. Faites un pas de foi et vous allez voir ce que je vais faire. Et c'est effectivement tout ce qu'ils auront à faire, en fait, de pacter leurs choses et d'avancer. Ils ne se doutaient pas comment que Dieu allait ouvrir les portes devant eux, mais c'est tout ce que Dieu leur demandait, c'était de marcher, d'avoir foi en lui, d'avoir confiance. Et c'est le moyen par lequel ils allaient être sauvés, en fait. C'était une pure grâce de Dieu, le salut qu'il leur offrait aujourd'hui. Ils ne le méritaient pas, même. Ce qu'ils méritaient, c'était d'être détruits avec les Égyptiens. Dieu faisait c'était une pure grâce, le salut qu'il leur offrait. Mais le moyen par lequel ils pouvaient en bénéficier, c'était de croire par la foi. Il n'y avait rien à faire en réalité. Ils n'avaient seulement qu'à croire en Dieu. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux confirme dans chapitre 11, verset 29, dans le Nouveau Testament. Il dit, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer. S'ils ne s'étaient pas levés, s'ils avaient dit « Non, c'est impossible, j'aime mieux me préparer », ils auraient péri. Et on voit au verset 16 à 18, « Pendant ce temps, alors que le peuple accepte de ramasser ses choses, Dieu prépare la grande délivrance éclatante. Et il dit à Moïse, « Toi, lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. » Et quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent derrière eux. Je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, de ses chars, de ses cavaliers. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel quand j'aurai été glorifié par le moyen du Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. Donc cette délivrance-là, on voit qu'elle est en même temps un jugement des ennemis. Comme on l'a vu à plusieurs reprises, Dieu, pour délivrer son peuple, il juge et il applique sa justice envers ses ennemis. Donc, il fait comme une pierre deux coups. Mais on voit qu'il y a bien d'autres choses en plus qu'il fait. C'est comme une pierre mille coups, une infinité de coups. Donc, Dieu va se glorifier même. On voit que le but ultime de tout cela, en délivrant son peuple, en écrasant l'armée égyptienne, c'est qu'il va être glorifié. Il va être reconnu comme étant l'Éternel. Et ça, c'est le but ultime de tout ce que Dieu fait et qui met en branle. C'est sa gloire, dans le fond. Même le peuple égyptien, ben, pas ceux qui vont mourir dans la mer, mais le peuple égyptien en Égypte va être forcé de reconnaître que l'Éternel est Dieu, que Dieu est infiniment puissant, qu'il dépasse toutes les divinités qu'ils connaissent et qu'il accomplit ce qu'il a dit, qu'il est souverain, qu'il est un Dieu à craindre. C'est ce que Dieu nous dit en réalité. Lorsqu'on est face à des épreuves et qu'on crie à lui, qu'on crie à l'injustice, il nous dit « Arrêtez d'avoir peur. Soyez au contraire remplis de mon esprit. Vous serez dans la paix, même dans la joie, même au travers de l'épreuve. Taisez-vous et regardez ce que je vais faire. Gardez le silence. » Ça ne veut pas dire de faire comme s'il n'y avait pas d'épreuve. L'épreuve est là. Mais c'est d'arrêter d'être dans le désespoir. Il dit « Regardez-moi, je vais vous délivrer. Je vais juger même ceux qui vous font du mal. » Et Dieu veut non seulement qu'on apprenne à ne pas craindre le malheur qui peut nous frapper, ne pas craindre les hommes qui nous veulent du mal, nos ennemis, qui sont méchants et parfois même qui ne reculent devant rien, qui n'ont pas de scrupules même pour nous faire du mal. On dit, ils arrêteront jamais. Et Dieu nous dit de ne pas les craindre, mais il veut aussi qu'on apprenne à le craindre lui. C'est pas qu'on fait comme s'il ne se passait rien. C'est que le respect qu'on pourrait avoir face à un ennemi qui est plus puissant que nous, il veut qu'on le transfère sur Dieu, sur lui-même. C'est Dieu qu'on doit respecter et craindre, puisqu'il est infiniment plus puissant que tous les ennemis qu'on pourrait rencontrer. Et on va voir comment il l'applique à partir du verset 19. Si vous voulez lire avec moi dans Exode 14, verset 19. « L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. » Et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Elle se rendit entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle était pour les uns nuée et ténèbres, et pour les autres, elle éclairait la nuit. Et ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer à pied sec. Et les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux du Pharaon, ses chars, ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. Pendant la veille du matin, l'Éternel regarda de la colonne de feu et de nuée le camp des Égyptiens, et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Il écarta les roues de leurs chars et en alourdit la marche. Et les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux. » Il combat pour eux contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer. » Et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars, sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer à l'approche du matin, et la mer revint à son niveau habituel. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon, qui était entrée dans la mer après, derrière les Israélites, et il n'en resta pas un seul. Mais les Israélites marchèrent à pied sec au milieu de la mer. Les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Israël vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel. Ils crurent en l'Éternel, et en Moïse, son serviteur. Wow, c'est tout un revirement. Donc, après les avoir placés dans une situation sans issue, là, maintenant, il leur déploie, il leur montre sa toute-puissance, il leur montre sa délivrance, pour qu'ils apprennent à le craindre, lui. Premièrement, il leur montre qu'il peut les protéger. Il est dit dans le texte que l'ange de Dieu qui était devant eux, qui allait devant eux, s'est déplacé derrière eux, entre eux et les Égyptiens. Et la colonne de nuée et de feu qui était devant, qui les guidait, s'est déplacée à l'arrière aussi pour les protéger. Et pendant tout le temps que la mer s'ouvrait et que la terre s'asséchait, les Égyptiens n'ont pas été capables d'avancer. Cette même colonne de nuée-là gardait les Égyptiens dans les ténèbres, dans la noirceur, mais elle éclairait les pas des Israélites pour qu'ils puissent continuer à avancer. C'était un message clair, ça. Je combats pour vous, je vous protège. J'ai mis des limites, dans le fond, à la souffrance que je permets. Ils ne pourront pas vous attaquer. C'est dit aussi que l'ange de Dieu qui allait devant eux allait se placer derrière eux. C'est qui cet ange-là? Ah, j'ai entendu le nom de Jésus à plusieurs reprises. C'est ce que naturellement plusieurs ont pensé. Ça fait du sens. Par contre, j'ai une réticence à aller jusqu'à dire que c'est Jésus. Mais c'est clairement un signe de... une démonstration de la Trinité de Dieu. C'est comme un pré-enseignement de la doctrine de la Trinité qui sera présenté clairement dans le Nouveau Testament. Mais déjà dans l'Ancien Testament, Dieu se montre comme étant un Dieu au pluriel. Comme lorsqu'il dit « Faisons l'homme à notre image. Descendons pour voir. » Et en même temps que Dieu est partout dans l'univers, qu'il est au ciel, qu'il est esprit, qu'on ne peut pas le voir, il vient sur terre de manière visible et il est là. Je crois dans ma compréhension que l'ange de Dieu était dans la colonne de nuée et de feu. Et lorsque ça dit qu'il alla derrière et que la colonne alla derrière, en fait, c'est l'apparition de l'ange qui est allé derrière. Parce que ça n'avait pas été mentionné avant dans les versets précédents. Tout ce qui était dit, c'était que Dieu, l'Éternel, allait devant le peuple dans une colonne de nuée et de feu. Là, on comprend que l'ange de l'Éternel était là, ou l'ange de Dieu. Comme il y avait comme une forme humaine. Est-ce que tous le voyaient? On ne sait pas. Ça demeure, c'est intentionnellement écrit de manière énigmatique. Mais on voit que c'est l'Éternel qui est là. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Lorsque Dieu s'est adressé à Moïse pour la première fois, c'était à un buisson qui brûlait, le buisson ardent, et c'est écrit que l'ange de l'Éternel était là. On lit dans Exode 3, « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. » Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Là, l'ange de l'Éternel s'adresse à lui, et il parle avec lui. Mais partout dans le texte, par la suite, on voit que c'est l'Éternel dit. Et Moïse dit à l'Éternel. Ce n'est pas seulement un ange parmi les anges de Dieu. C'est l'Éternel lui-même qui est là. Donc, autant dans l'épisode du buisson ardent, et que maintenant, avec la colonne de nuée, c'est l'Éternel qui est là. Donc, c'est normal de conclure que c'est Dieu le Fils. Mais en tout cas, on voit que Dieu, il est au pluriel. Il est en plusieurs personnes. On voit que Dieu a protégé son peuple et c'est ce qu'il veut nous faire comprendre. C'est Dieu nous protège. Même lorsqu'on croit qu'on est dans la pire menace, même lorsque notre vie est menacée, Dieu nous dit qu'il n'y a rien qui échappe à son contrôle. S'il ne veut pas qu'on meure, on est immortel. Peu importe s'il y a une bombe nucléaire qui saute à côté de nous, on ne peut pas mourir. Dieu nous protège. C'est ce que beaucoup de psaumes disent aussi. Il y a des milliers qui tombent à gauche ou à droite, mais je vais rester debout. L'ennemi ne peut pas nous attaquer avec toute la puissance qu'il voudrait. Satan lui-même ne peut pas. Dieu renverse ses plans. Dieu met des limites qui sont infranchissables. Et notre ange de Dieu, c'est Jésus, qui a dit qu'il serait toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et Dieu montre non seulement qu'il nous protège, mais qu'il combat. Il ne nous demande pas d'attaquer, nous, mais lui, il attaque pour nous. Il combat. C'est lui qui est à craindre. D'abord, il demande à son peuple de faire ce qui semblait impossible, c'est de se lever, de marcher, de traverser la mer à pied. Mais ça arrive pour vrai. Moïse lève sa main, la mer se sépare, une mer profonde au point où ça fait comme des murailles d'eau à côté d'eux. Et ils s'avancent à pied sec. C'était vraiment pour montrer que ce n'était pas seulement un phénomène naturel, c'était un miracle que Dieu a opéré. Ils avancent en plein milieu de la mer, mais c'est, comme on disait, par la foi qu'ils avancent. Et il y a un autre événement qui semble improbable, qui arrive, impossible, c'est que l'armée égyptienne les suit aussi, mais n'arrive pas à les rattraper. Pourtant, ils sont sur des chars, des chevaux. Ils peuvent avancer à toute vitesse. Ils n'arrivent pas à les rejoindre. Dieu leur met des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire. Leurs roues se séparent, les chars tombent, ils sont alourdis dans leur marche. Ils n'arrivent pas à avancer. Puis même eux se rendent compte, « Attends, il se passe quelque chose de pas naturel ici, là. » et ils sont dans une grande crainte. Eux, tout à coup, ils ont peur de ce Dieu-là. Et le verbe qui est utilisé, c'est vraiment le même verbe que lorsque les Israélites ont eu peur en voyant les Égyptiens arriver. Là, c'est les Égyptiens qui ont peur. Les Israélites et de leur Dieu. Ils sont remplis d'une grande crainte. Ils veulent fuir même devant l'Éternel, mais Dieu les tient là. Et même ceux qui réussissent à avancer, ça dit que Dieu les reprécipite au milieu de la mer. Et Dieu montre, troisièmement aussi, que non seulement il contre-attaque et qu'il sème la terreur dans le camp ennemi, mais qu'il juge aussi ceux qui ont osé s'opposer à lui. Il juge ses ennemis, les ennemis de son peuple. Et il rend justice, en fait. Même on pourrait dire qu'il venge son peuple. C'est pour ça qu'il dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et c'est la troisième manière dont Dieu veut faire comprendre à son peuple que c'est lui qui doit être craint et non les ennemis. Les Égyptiens sont au milieu de la mer et Dieu dit à Moïse, « Étends ta main et l'eau revient. » Les Égyptiens, en voyant l'eau arriver, tentent de fuir. Ça devait être épouvantable, mais il était trop tard. Et l'eau les recouvre et tous meurent. Toute l'armée périt. Les Israélites sont sur le bord de l'eau et ils assistent à la scène. Et même on dit qu'après, ils voient les Égyptiens morts sur la rive. Ils sont témoins de la délivrance et même du jugement de Dieu. Ils sont témoins de l'action de Dieu qui leur fait justice. Et leur réaction est unanime. Le peuple, comment ils réagissent? Israël vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre les Égyptiens et le peuple craignit l'Éternel. Tout à coup, ils ont dit, wow, c'est lui qui est à craindre. Les Égyptiens, c'était rien, ça. Pourtant, c'était toute la puissance de l'Égypte qui était là, là. Puis on sait qu'à l'époque, le pays d'Égypte était la puissance mondiale. Ils avaient eu le dessus sur toutes les autres nations. Donc Dieu montrait qu'il était plus puissant que n'importe quelle armée, que toute la puissance terrestre rassemblée, que toutes les divinités, la puissance même des magiciens. Il y avait une puissance surnaturelle derrière cela, spirituelle. Dieu était plus puissant que cela. Ils ont réalisé que c'est Dieu qui est à craindre. Le peuple craignit l'Éternel et leur foi s'est affermée. Leur confiance en Dieu est devenue réelle, plus profonde et elle a augmenté. Il est écrit qu'ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Comme lorsqu'ils murmuraient contre Moïse, et c'était dans le fond un murmure adressé à Dieu. Lorsqu'ils ont cru en Dieu, ils ont cru en son serviteur, en son porte-parole, en son prophète. Et plusieurs ici peuvent témoigner à différents épisodes dans leur vie qu'ils ont vu la main puissante de Dieu les délivrer. Même moi aussi, j'ai plusieurs épisodes qui me reviennent en mémoire. Et j'ai même vu Dieu me faire justice. Et plusieurs peuvent témoigner de cela aussi. Si vous êtes dans le doute et vous vous demandez si Dieu peut réellement intervenir dans la vie pour changer le cours des événements ou sortir d'une impasse, bien, demandez à vos frères et sœurs qu'ils vous racontent ce qu'ils ont vécu. Vous allez voir que Dieu est tout-puissant. Dieu combat pour nous, c'est sa promesse. Ne craignons pas nos ennemis. Ne craignons pas le malheur. N'ayons pas peur de cela. Dieu nous demande d'être forts, pas parce qu'on est meilleur que les autres, parce qu'on est plus intelligent, parce que notre Dieu, c'est le Dieu créateur, le tout-puissant. Qui on pourrait craindre? Et on va comprendre progressivement que même les forces occultes, même Satan et les démons que des hommes pourraient déployer contre nous en les invoquant, que c'est rien face à Dieu. On n'a pas à craindre cela, on a juste à se tourner vers Dieu et à faire ce qu'il nous demande par la foi. On peut se souvenir que, aussitôt qu'on est envahi par la peur, par un grand stress, une angoisse, c'est une bonne occasion de sonder son cœur. Parce que c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent un signe d'un manque de foi. On se souvient de l'épisode où Jésus était dans le bateau avec ses disciples. Il y a eu une grosse tempête. Mais lui, il dormait à la poupe. Et ils le réveillèrent. Ils lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? » Il se réveilla, il menaça le vent. Il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci car même le vent et la mer lui obéissent. Ils avaient peur de la tempête, mais lorsqu'ils ont vu ce que Jésus a fait, ils furent saisis d'une grande crainte. Leur crainte, en fait, s'est transférée sur Jésus, qui est Dieu, qui est l'Éternel. Mais c'est bon de craindre Dieu, puisque Dieu est bon. C'est pas comme si on craignait un tyran et qu'on a peur qu'il nous maltraite. On craint un Père céleste, un ami, un confident, quelqu'un qui veut nous faire grâce. Non, c'est une bonne chose, c'est un respect qui est très bon. Et Jésus, c'est justement l'Éternel parmi nous. Et il est en même temps le serviteur de Dieu, à l'image de Moïse. Si on croit en Dieu et qu'on a confiance en lui, on va croire à son serviteur qu'il nous a envoyé. C'est Jésus, son porte-parole, son prophète, son messager, celui qui nous guide. Celui à qui on s'identifie lorsqu'on se fait baptiser même. Et comment Jésus nous a délivrés de ça, nous a fait traverser notre mer, l'impasse dans laquelle on se trouvait, c'est pas en mourant pour nous, comme on s'est remémoré tantôt par la table du Seigneur, en mourant pour payer le prix de nos péchés et en ressuscitant. Sa mort et sa résurrection, c'est le baptême, dans le fond, que nous célébrons, par lequel nous nous identifions à lui. C'est la même image que le peuple d'Israël lorsqu'ils ont traversé la mer. C'est ce que Paul dit même dans 1 Corinthiens. Nos pères ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la mer. Ils ont fait le pas de foi, ils se sont identifiés à Moïse, qui était le serviteur de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande, de nous identifier à Jésus, de le suivre partout où il va nous diriger, étant confiant qu'il accomplit la volonté de son Père et les directives de son Père. Qu'il va nous protéger, qu'il veut notre bien. Donc, ne craignons pas nos ennemis, craignons plutôt Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le Dieu saint aussi qui déteste le péché. C'est pour ça qu'on veut le craindre aussi. Il est un Dieu terrible. Il ne nous a pas encore délivrés de toutes les menaces sur la terre, nous en rencontrons souvent, mais au fur et à mesure, il nous délivre de toutes nos détresses. Mais un jour, nous allons arriver dans la nouvelle terre qu'il prépare pour nous, la maison de son Père. Oui, là, on va même être délivré de toute attaque, de toute menace, enfin dans une paix sans interruption. Et nous espérons cela. Et c'est par la foi, dans le fond, que nous avançons. On n'a pas encore vu ce jour-là, mais par la foi, nous persévérons. Et nous laissons à Dieu la justice. On voit beaucoup d'actes qui sont commis à notre égard, de méchanceté ou d'injustice, et on ne voit pas nécessairement que les gens sont punis. Mais Dieu dit, laissez à moi la vengeance. Et Dieu garde tout en note, là. N'ayez pas peur qu'il y ait une injustice qui demeure non punie. Ça va être puni. Dieu va faire justice. Les mensonges qui sont colportés vont être dévoilés. Toute vérité va être mise à jour. Jésus dit dans Luc 12, « Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après ne peuvent rien faire de plus. » Donc même la mort, dans le fond, on ne devrait pas la craindre. C'est la dernière étape de la délivrance de Dieu. Et même lorsque l'ennemi pense qu'il nous a vaincus en nous mettant à mort, en fait, c'est la joie de retrouver notre Créateur qui nous attend. Jésus dit, « Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, vous dis-je, c'est lui que vous devez craindre. » Et en terminant, je voulais que ce que Jésus dit à l'église de Smyrne dans Apocalypse 2. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je connais les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont plutôt une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter même quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. On voit que c'était connu de Dieu. Mais sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie.
À celui qui nous aime.
Seigneur soit béni et que Dieu bénisse tout un chacun de vous.